Ah, bonsoir, on commence, c'est l'heure. Mon objectif, hein, pour cette année, il nous reste que deux séances, hein, cette semaine et puis la semaine prochaine, c'est qu'on arrive au bout de la première grande partie de l'Évangile, le livre des signes. Donc, il n'y aura pas de séance d'équipe la semaine prochaine, mais encore une séance ici. Là, ce soir, on va faire 9 et 10. Alors ça, par contre, vous avez dû le lire en équipe. Et puis, la semaine prochaine, on fera 11 et 12. Bon, et puis alors la suite, la deuxième moitié de l'évangile, il faut voir, peut-être que on pourra faire ça l'an prochain. On verra. On verra. Ouais. Alors, 9 et 10, donc... On se souvient, là, on sort d'une partie très polémique, les chapitres 7 et 8, où on peut dire que c'est un peu l'équivalent, je vous avais dit, de ce qu'on trouve dans les évangiles synoptiques, juste avant la Passion, où il y a des rencontres très polémiques entre Jésus et les grands prêtres, Jésus et les chefs des pharisiens. Et donc, quelque chose nous est dit finalement, de la rupture qui va se produire entre le judaïsme et le christianisme. Ici, c'est l'équivalent. Ça arrive un peu plus tôt dans l'évangile. C'est pas au moment de la Passion, mais c'est conforme à ce que fait saint Jean. Il a toujours tendance à anticiper les choses par rapport à la chronologie des synoptiques. Ça, c'était les chapitres 7 et 8. Le chapitre 9. Il y a quelque chose d'un petit peu différent, même si il y a aussi une polémique qui va arriver. Mais il y a un élément plus positif, on va dire, puisque en fait, ce qui nous est retracé aussi dans ce chapitre 9 avec la guérison de l'aveugle né, c'est un itinéraire exemplaire de la foi. Donc, il y a une opposition, mais il y a quelque chose donc de remarquable, enfin de positif, c'est comment est-ce qu'un homme présenté comme aveugle, alors il est aveugle physiquement, mais certainement il y a aussi l'idée que par la rencontre du Christ, une cécité d'ordre spirituel va prendre fin. Ça d'ailleurs, la conclusion de la guérison de l'aveugle né va dans ce domaine-là, puisque les pharisiens disent est-ce qu'on est aveugle nous aussi? Alors Jésus dit, mais si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites, nous voyons et. Donc c'est ça le problème. C'est aussi un épisode qu'on sent que ça fait un peu un diptyque avec la guérison du paralytique à Bethesda. Ne serait-ce que par le lieu, c'est deux lieux finalement de guérison qui entourent le temple. Bethesda, c'est au nord du temple. Siloé, c'est au sud du temple. Alors peut-être d'ailleurs qu'il y en a parmi vous qui sont allés en pèlerinage à Jérusalem. On voit les archéologues depuis une vingtaine d'années, ça fait pas si longtemps que ça, 20 ou 30 ans, je sais plus, ont réussi à retrouver la piscine de Siloé, donc on peut vraiment être à l'endroit où ça s'est passé, enfin, ou plutôt où Jésus a envoyé l'aveugle né se laver, lui-même n'y va pas, mais il envoie l'aveugle né s'y laver, et puis même, toujours dans cette partie-là de ce qu'on appelle le musée. Le musée de la citadelle de David, donc vous avez, puisque c'est l'ancienne, toute cette partie-là, c'est la colline de Sion, c'est vraiment le Sion historique, pas le Sion d'aujourd'hui qui est beaucoup plus à l'ouest, mais c'est vraiment l'endroit où la ville de David a été fondée vers Jérusalem, enfin a été occupée plutôt par David, mettons vers 1000 avant Jésus-Christ. Donc il y a un musée archéologique qui permet de voir la piscine de Siloé et aussi de remonter. Il y a une petite ruelle qui à l'époque de Jésus était à l'air libre, là maintenant c'est couvert, mais donc c'est assez spectaculaire de faire ça. Donc peut-être vous avez ça en tête si vous avez eu la grâce d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Donc au nord, le paralytique avec la piscine de Bethesda, au sud, l'aveugle né, et on nous parle de la piscine de Siloé. Par ailleurs, un paralytique et un aveugle, ça fait en lien avec le temple, puisque le temple est au milieu, ça fait penser justement à la conquête de David, la conquête de Jérusalem par David. Il est passé astucieusement par une faille dans le rocher qui servait enfin, où il y avait un cours d'eau qui passait, la source du Giron. Et Il a présenté ça, enfin, les Jébuséens qui possédaient la ville le narguaient parce qu'eux, ils pensaient que par ses défenses naturelles, comme c'est sur une montagne, et puis aussi par la muraille, la ville de Jérusalem était imprenable. Et donc, ils narguaient le roi David en disant: Tu n'entreras pas ici, les aveugles et les boiteux t'en chasseront. Ouais, donc, pourquoi les aveugles et les boiteux? Parce que, évidemment, ce n'est pas l'élite militaire. Hein. Ce n'est pas avec des aveugles et des boiteux qu'on va. Donc c'était une manière de dire, même les pires, les plus mauvais des soldats, votre lieu est tellement imprenable en fait, est tellement sécurisé que même les pires des soldats réussiront à te repousser. Astucieusement, donc David est passé par cette faille dans le rocher, et ça c'est raconté dans le premier livre le deuxième livre de Samuel. Et pour nous, un peu pour marquer le coup, du coup, David a pris une décision, c'est que les aveugles et les boiteux, il leur a interdit l'accès au temple. En fait, il y a aussi d'autres, c'est une manière d'historiciser des règles de pureté qu'on trouve en Israël, qui font que toute personne qui a un handicap physique, qui a une tare physique, en fait, de toute manière, elle ne peut pas accéder au temple. C'est vrai aussi pour les animaux. Les animaux qu'on sacrifie au temple, il faut qu'ils soient parfaits physiquement. Donc c'est certainement une règle qui existe dans la pensée religieuse de tous les peuples et aussi d'Israël, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le récit biblique, c'est mis en rapport avec la conquête de Jérusalem par David. Et donc il y a comme une malédiction associée à David qui porte spécifiquement sur les boiteux et les aveugles. Alors quand Jésus guérit un paralytique et un aveugle, ben, évidemment ça fait écho à ce que son lointain ancêtre, en tout cas voilà, Jésus est fils de David, a décidé, et donc évidemment, il y a une forme de réintégration, il y a une forme d'annulation de cette malédiction, ce qui est aussi une manière de faire comprendre que Jésus est en train de changer les conditions d'accès au culte. Or ça, c'est un thème très important dans l'évangile de Saint Jean. Quand est-ce qu'on l'a eu pour la première fois d'ailleurs, l'idée que Jésus allait changer le culte, en fait, changer les conditions d'accès? Voilà, exactement, au chapitre 2, quand il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, mais il parlait du sanctuaire de son corps. Hein, vous voyez, donc, et puis encore au chapitre 4 avec la Samaritaine, il dit crois-moi, femme, l'heure vient où c'est ni ici ni à Jérusalem que viendront les adorateurs, mais ils adoreront le Père en esprit et vérité. Donc ça colle assez bien, on voit que finalement ces deux épisodes forment comme un diptyque. Mais il y a aussi une différence essentielle entre ces deux épisodes, c'est qu'il y en a un où le paralytique, on a le sentiment qu'il ne saisit pas il ne saisit pas la perche que Jésus lui tend, en fait. Il prend la guérison physique, mais loin de devenir disciple de Jésus, loin de se mettre à la suite de Jésus, au fond, il va se retrouver du côté des opposants, puisque c'est lui qui va faire le rapport de paquet, comme on disait quand j'étais petit à l'école. Je ne sais pas si l'expression existe encore aujourd'hui, mais c'est lui qui va dénoncer Jésus auprès des pharisiens. Et donc, ça vaut la première grande polémique de Jésus en Jean 5, puisqu'il a guéri le jour du Shabbat, et c'est ça qu'on lui reproche. En Jean 9, c'est aussi une guérison le jour du Shabbat, encore un point commun entre les deux épisodes, Jean 5 et Jean 9, mais là, pour le coup, l'aveugle-né, loin de se retrouver dans le camp des opposants à Jésus, ben, petit à petit va devenir de plus en plus. Comment dire? On voit qu'il progresse dans la foi finalement. Alors, entrons un peu plus dans le détail de ce chapitre. On nous dit, donc, je suis au début du chapitre 9, Jésus voit un homme aveugle de naissance. Alors, ça suscite une question. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Alors ça part d'un principe qui est assez communément admis dans la Bible, c'est qu'il y a un rapport entre le péché et la maladie. Alors, nous, on a beaucoup de mal, parce qu'évidemment, nous, on a une conception très, très scientifique, en un sens, hein, des pathologies. Enfin, voilà, pour nous, il y a deux domaines, puis on est aussi les enfants de Descartes, hein, donc on sépare énormément le registre de l'âme, donc ce qui appartiendrait au péché, c'est le registre de l'âme. Enfin, ou les maladies corporelles, bon, les handicaps, toutes ces choses-là, pour nous, c'est deux choses complètement hétérogènes. Ça n'est pas du tout comme ça que la Bible voit les choses. Il y a un rapport entre les deux. Ce n'est pas un rapport très facile à préciser. Ce n'est pas aussi simple qu'un rapport de causalité, genre si tu pêches le lendemain, tu perdras la vue. C'est plus subtil que ça. On va dire que c'est un rapport symbolique. Oui, c'est moins rigide qu'un rapport de causalité presque mécanique. Mais il y a quand même un rapport. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, on retrouve un peu quelque chose de ça, au sens où, plus qu'il y a 30 ans ou un siècle encore plus, on avait une vision un peu scientiste de la médecine. Aujourd'hui, on dit qu'il y a quand même un rapport, c'est vrai aussi, peut-être pas entre l'âme spirituelle et le corps, mais entre la psychologie et le corps. Qu'une maladie physique puisse rejaillir sur la santé psychique, ça c'est assez évident. Quelqu'un qui est malade, je sais généralement, il va pas bien non plus, enfin, il peut être déprimé. Mais on reconnaît aussi l'inverse aujourd'hui, on dit on peut somatiser des traumatismes psychiques, des choses comme ça. Ça peut se traduire dans le corps. Donc vous voyez que finalement aujourd'hui, on retrouve un petit peu cette position de la Bible qui était de voir quand même un certain lien entre le péché, on va dire les maladies de l'âme, si vous voulez, et puis les maladies du corps. Mais alors là, c'est un cas un petit peu compliqué, puisque précisément, comme il est né aveugle, cet homme, on ne peut pas vraiment dire que c'est la traduction d'une attitude de péché. Ce qu'on pouvait avoir peut-être un petit peu avec le paralytique, vous vous souvenez, Jésus lui dit « te voilà guéri » au chapitre 5, il le retrouve dans le temple. Ben oui, dans le temple, parce que il profite comme l'ancien paralytique est guéri, maintenant il peut accéder au temple, la malédiction de David ne s'applique plus à lui. Et donc, alors, faut que je retrouve. Faut que je retrouve le verset. Évidemment, quand on cherche un verset, on ne le trouve jamais. Ah voilà, c'est au verset 14. Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà bien portant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Vous voyez, cette phrase-là, elle semble dire que, pour le paralytique, en tout cas, Jésus semble quand même mettre un lien entre son état antérieur, dont il l'a guéri, la paralysie, et puis sa condition spirituelle. Il le met en garde, il dit « Bon, ben, voilà, je t'ai guéri, mais ne pêche plus, parce que sinon il pourrait arriver pire que d'être paralysé. » Mais il n'était pas paralysé de naissance, ça faisait longtemps qu'il était paralysé, 38 ans, mais il n'était pas paralysé de naissance. L'aveugle de naissance, ben, c'est plus difficile de comprendre quel est le lien, justement. On sait qu'il y a un lien, mais quel est le rapport entre le handicap, la cécité pour l'aveugle de naissance, et puis le péché. Alors, est-ce que c'est lui ou ses parents ? Alors lui, bon, ça c'est un peu, on dit, mais quand même, c'est un petit peu... Dans la tradition rabbinique, postérieur à l'évangile, mais si l'idée se retrouve dans la tradition rabbinique au 3e siècle après Jésus-Christ, c'est bien possible qu'elle était déjà présente au 1er siècle. Il y a cette idée qui peut nous sembler étonnante, mais qu'un enfant dans le sein de sa mère peut déjà pécher. Vous voyez ? Donc ça pourrait être ça. Ou ses parents, alors là c'est peut-être plus facile à concevoir, c'est de dire ben, il y a une solidarité dans le mal. Et donc, si les parents ont péché, ça va rejaillir sur l'enfant. Là encore, nous, ça nous paraît injuste. On a une mentalité très chatouilleuse sur le fait que vraiment, c'est une rétribution. Chacun s'estime très, on est très individualiste, pour le meilleur comme pour le pire. Mais dans l'Ancien Testament, c'est pas aussi clair que ça. Si vous prenez par exemple, je reprends mon roi David, quand il a péché avec Bethsabée, pas de bol, Bethsabée est tombée enceinte, le prophète Nathan va voir David, et il lui dit ces quatre vérités, et qu'est-ce qu'il dit comme peine, comme conséquence de son péché? Il dit, du coup, ton fils, il va mourir. Vous voyez, alors nous, on en dit, le gamin, il y est pour rien, ça aurait été bon. Pourquoi il ne punit pas David? Mais voilà, donc il y a aussi cette idée dans le judaïsme que la faute des pères rejaillit sur les enfants. Tiens, d'ailleurs, il y a même un proverbe que vous trouvez chez Ézéchiel qui est « Les pères ont mangé du raisin vert et c'est les dents des fils qui ont été agacées. » Ce proverbe semble dire que, au contraire, hein, dont la, l'idée, dans la pensée juive de l'Ancien Testament, il y a plutôt l'idée qu'au contraire, c'est plutôt les générations d'après qui dégustent, en fait. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, pour le coup, il y a pour la première fois l'affirmation nette qu'on est, Dieu nous rend, demande des comptes pour nos péchés et pas pour ceux de nos pères. Donc il dit, ben, ce proverbe-là, je veux plus que vous le disiez. Enfin, ouais, ça fait comprendre que ces deux explications, est-ce qu'il a péché lui ou ses parents, ça se défend, ouais, c'est pas absurde. Alors comment Jésus répond? Il n'entre pas du tout dans cette casuistique, vous voyez, ça c'est intéressant, il n'entre pas du tout dans une archéologie du péché. Il ne cherche pas à dire quelle est la cause qui explique qu'est-ce qui fait que cet homme est pécheur. Mais de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout une démarche régressive comme on peut avoir en psychanalyse, par exemple. De dire, mais on va essayer de remonter le temps et de trouver une blessure ancienne, alors ici ça serait un péché, qui explique ça. En fait, Jésus, il ne fait pas dans l'archéologie spirituelle, mais il fait plutôt, alors je vais prendre le contraire, arché en grec, ça veut dire le commencement, le principe, le début même, hein. Donc il ne va pas à l'origine. Il ne va pas à l'origine. Le mot opposé à arché, c'est télos, c'est plutôt la fin, la finalité, le but. Il fait de la téléologie. Il ne fait pas l'archéologie du péché, mais il fait la téléologie du péché. Alors ça, je trouve que c'est très fort, en fait, hein, comme bouleversement spirituel. Je trouve que ça change vraiment le rapport qu'on peut avoir avec le mal qu'on fait, peut-être aussi le mal qu'on subit, hein. Il peut y avoir parfois une petite lumière dans mon passé, il ne faut pas la mépriser, ça peut, et même, bon, ça peut être bon, même certaines fois, d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'il m'arrive telle chose. Mais vous voyez que pour Jésus, il s'agit moins de dire qu'est-ce qui explique la situation où je suis maintenant que de dire mais qu'est-ce que Dieu peut en faire? En fait, c'est beaucoup plus optimiste, je trouve. Ça veut dire que quelle que soit ma situation aujourd'hui, que ça soit une maladie, bon, là c'est le cas de l'aveugle-né, mais plus grave, ça serait une maladie de l'âme, hein, un péché ou je ne sais pas, ou un blocage spirituel, plutôt que d'essayer de savoir mais d'où ça vient. Ben d'accord, mais admettons même que j'y arrive. Si je reste prisonnier de mon malheur, j'ai la satisfaction de savoir d'où ça vient, mais oui, ça reste quand même limité comme apport. Alors que si je me comprends que de cette situation-là, Dieu peut tirer quelque chose, c'est-à-dire que ben, finalement, y a une issue. Dieu peut tirer d'un mal un bien. Mais ça, c'est beaucoup plus positif. Alors voilà ce que Jésus répond, c'est ni lui ni ses parents, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors, attention, il ne faut pas non plus aller trop loin et faire de Dieu une espèce comment dire, de despote arbitraire et cynique qui nous ferait du mal pour qu'après ses œuvres de bien se manifestent en nous. Non, c'est pas. D'ailleurs, Jésus ne dit pas c'est à cause de c'est Dieu qui a fait qu'il soit aveugle. Ouais, c'est pas Dieu qui dit bon ben je vais envoyer la cécité sur un bonhomme, puis après ça me donnera l'occasion de faire un grand miracle. Je épaterai tous les gens, c'est pas du tout dans le style de Dieu. C'est plutôt de dire, mais dans une situation, dans une impasse humaine, qui peut avoir plein de raisons, mais Dieu n'est jamais bloqué par cette impasse. Quand l'homme est bloqué par une impasse, ben Dieu lui trouve une issue. Puis Jésus va commenter, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors là, à quoi Jésus fait allusion? Ben sans doute, hein, à sa passion proche. Hein. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est une donnée anthropologique. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ben, quand la nuit arrive, on ne peut plus travailler. Mais ici, c'est plutôt la nuit spirituelle, c'est la nuit où les hommes vont se coaliser contre le Christ. C'est la nuit donc de l'abandon, de la trahison de Judas, du reniement de Pierre. Jésus pourra plus travailler. On n'en est pas encore là, et tant qu'il est là, Jésus dit, mais je vais aller jusqu'au bout de la mission que Dieu m'a donnée. Et puis il y a cette déclaration en je suis la lumière du monde. Ce qui va illustrer. Par la guérison de l'aveugle-né. Et la lumière, évidemment, c'est d'abord une lumière spirituelle, et ça colle très bien la lumière, hein, c'est très spontanément, quand on veut métaphoriser la vérité, on la voit comme la lumière de l'intelligence. Donc ça colle très bien avec toujours cette présentation fondamentale du Christ dans l'évangile de Jean, c'est qu'il est révélateur du Père. Mais pour montrer pour attester qu'il est la lumière spirituelle, celle qui va donner la vérité aux hommes, il va faire un miracle où corporellement, il va permettre à un homme de voir la lumière. Alors comment Jésus maintenant va procéder? Il fait un geste assez étonnant, un peu déroutant. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre. Bon, alors déjà, ça c'est pas très poli. Puis il fit de la boue avec de la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Alors, la salive, c'est vrai que dans la médecine antique, elle était vue comme effectivement une espèce de médicament naturel. Mais ce n'était pas avec de la boue. Parce que ça, un aveugle, si on lui met de la boue dans les yeux, on a plutôt l'impression que ça va accentuer le problème que de le résoudre. Donc c'est pas tellement. En fait, il va pas jouer, il ne fait pas comme un thaumaturge, vous voyez. Il n'est pas en train de faire comme. On va dire un médecin de l'époque qui essaye d'utiliser ce qu'ils avaient à disposition, de la salive pour guérir peut-être, je sais pas, des infections, des paupières ou je sais pas quoi. Donc c'est pas ça qu'il fait. Évidemment, il se situe dans un autre registre que celui d'un médicament, vous voyez. C'est quelque chose de symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de faire de la boue et de l'appliquer sur cet homme. En fait, quand on connaît la Bible, ça nous fait évidemment penser au deuxième récit de la création, quand Dieu va façonner l'homme à partir de la poussière de la terre. Dans le deuxième récit de la création, Dieu va créer l'homme un peu comme un potier, il fait une statue d'homme, et puis il va lui donner la vie en lui insufflant, en lui donnant son souffle. Donc ici, Jésus est en train de se poser comme celui qui va créer ou plutôt recréer l'aveugle-né. Donc il prolonge le geste créateur de Dieu. À la limite, vu toutes les affirmations qu'on a eues sur déjà la divinité de Jésus, parce qu'on sort de Jean 8, hein, où Jean 8, Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Exode 3,14. Donc là, on se dit en fait, c'est le Dieu créateur qui reprend sa création en Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a quelque chose de supplémentaire. Il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Alors, il lui met de la boue, puis il dit, va te laver maintenant. Ben oui, parce que en fait, il s'agit de montrer aussi que cette reprise de la création, pour qu'effectivement elle puisse guérir l'homme dans sa cécité corporelle, mais certainement aussi ce que vise Jésus. C'est lui donner une lumière surnaturelle, la lumière de la vérité, la lumière de Dieu, en fait, hein, la parole de Dieu. L'acte créateur ne suffit pas. Alors, il l'envoie à une piscine dont on nous précise le nom. Saint Jean, d'ailleurs, a le soin de traduire. Donc, chalar, effectivement, en hébreu, ça veut dire envoyer. Shiloar, c'est l'envoyé. Alors, il dit Siloé, ça veut dire l'envoyé. Or, l'envoyé, c'est comme ça que Jésus s'est présenté à plusieurs reprises déjà dans l'évangile. Donc en fait, c'est une piscine qui porte le nom de Jésus. Piscine, je vous rappelle, hein, ce n'est pas une piscine comme chez nous hein, pour aller faire des allers-retours. Hein, c'est un réservoir, hein, notamment parce que le temple utilise beaucoup d'eau. Et donc, c'est un réservoir qui peut servir à plusieurs choses, mais entre autres, autour du temple, c'est pour le culte. On a besoin de beaucoup d'eau pour le culte. Donc c'est une piscine qui porte le nom de Jésus et il s'agit de s'y laver. Je dirais qu'il ne faut pas, faut pas trop se torturer l'esprit pour voir que derrière ça, évidemment, il y a une image du baptême. Parce que se plonger dans une piscine ou se laver dans une piscine qui porte le nom de Jésus, c'est exactement ce qu'on fait quand on est baptisé. Donc, à travers cette guérison, il y a une guérison, mais il y a aussi un registre symbolique qui est où Jésus, en fait, va nous faire comprendre ce que c'est que le baptême. Alors, en transparence, évidemment, ça veut dire qu'il y a aussi toute une réflexion de la communauté johannique, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, en 90, le disciple que Jésus aimait a réfléchi à ça, et c'est comme ça aussi qu'il veut raconter cette guérison, comme, on va dire, une catéchèse baptismale, c'est-à-dire ça nous fait comprendre ce que c'est que le baptême. Alors l'aveugle y va, il se lava, et à son retour il voyait. Donc là le miracle, on peut dire, est terminé dans son effet corporel. Ça prend pas beaucoup de versets en réalité, hein. Là on est au verset 7, c'est pas beaucoup. Dans les récits de miracles des évangiles synoptiques, il y a quasiment tout le temps, après un miracle, un ou deux versets qui nous racontent l'effet que ça a eu sur les gens autour. Et en général, c'est très rapide, c'est juste de l'admiration. Parfois, ça peut déclencher une polémique. Pensez par exemple au paralytique qu'on descend dans la maison et Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et puis alors du coup... Il y a des gens qui disent, mais quand il ose dire ça? Et puis Jésus dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Et puis là, il dit, prends ton brancard et marche. Donc là, il guérit le paralytique. Vous avez ça chez saint Marc, par exemple, au chapitre 2. Donc, parfois, ça déclenche une petite polémique, mais ça reste assez succinct. Chez saint Jean, et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce phénomène, il y a un peu une inversion, c'est-à-dire que le récit de miracle, proprement dit, prend... C'est vraiment la portion congrue, c'est une place assez limitée. Par contre, c'est l'occasion, il y a beaucoup d'espace laissé aux réactions, et surtout, ce qui est moins le cas ici, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un grand discours de Jésus qui est tenu, qui vient dire quel est le sens du miracle. Le modèle, évidemment, c'est Jean 6. Hein. Jean 6 avec le double miracle, le double signe, pardon, je vais prendre le mot joannique, le double signe de la multiplication des pains et de la marche sur les eaux. Puis il y a le grand discours du pain de vie, voilà, ça c'est plutôt le modèle joannique. Donc les choses sérieuses en fait, enfin les choses sérieuses, le plus important vient après le miracle. Alors comment on réagit? Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est bien lui, d'autres disaient, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, c'est bien moi. Là, on a un petit peu d'ironie, je ne sais pas s'il faut appeler ça de l'ironie, c'est peut-être pas exactement de l'ironie joannique, mais on a en tout cas ce phénomène de double sens. On peut dire que les gens sont tellement, c'est pour eux tellement inconcevable que ce gars-là qui était aveugle soit guéri, qu'ils en finissent par se persuader que ce n'est pas lui. Et d'autres disent, mais non, mais quand même, il a exactement la même tête. On peut prendre ça à un sens plus spirituel, et de dire, mais le baptême me rénove tellement en profondeur qu'au fond, on peut dire, ben, c'est moi et c'est plus moi, finalement. Vous voyez, donc, à travers cette espèce de confusion de l'entourage, qui ne savent plus très bien si c'est lui ou pas, c'est déjà une manière de nous faire sentir à quel niveau de radicalité le baptême va rénover l'être de l'homme. Alors, quand l'aveugle dit « c'est bien moi », ils lui dirent donc, alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Alors il va raconter, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux, il m'a dit, va à Siloé et lave-toi, j'y suis allé, je me suis lavé, j'ai retrouvé la vue. Vous voyez, c'est, là pour le coup, c'est extrêmement factuel. C'est tellement factuel que ça peut presque nous surprendre. Hein. On se dit, mais il pourrait être un peu plus enthousiaste, mais en réalité, c'est dans l'optique joannique où il y a toujours un peu l'idée d'un procès, où l'évangile, il s'agit toujours un peu de témoigner de Jésus, un peu comme un procès. Les hommes mettent Jésus en procès, mais en fait, en condamnant Jésus, c'est eux-mêmes qui se mettent en procès et qui sont condamnés par eux-mêmes. Donc, on va commencer par un témoignage, mais très factuel et objectif. Donc là, on peut dire qu'il n'y a aucune confession de foi de la part de l'ancien aveugle. Il ne dit pas « et c'est le Christ », il ne dit pas... Vous voyez, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, enfin vraiment, c'est très, très neutre. Hein. Bon, Jésus, c'est son nom d'homme. Ah, bon, Alors, il ne sait pas où est Jésus, alors du coup, c'est lui qu'on va interroger. On le conduit chez les pharisiens. Donc les choses commencent à se gâter un peu pour lui, finalement. Hein. Quand on n'arrive pas à mettre la main sur Jésus, c'est lui qui va se retrouver à la question. C'était un jour de Shabbat, nous dit saint Jean, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors là, on se dit, aïe, 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 ça va recommencer la polémique qu'il y a eu en Jean 5 et qu'on avait revue en Jean 7, puisque vous vous souvenez qu'en Jean 7, on reparlait, en fait, c'était de nouveau les mêmes griefs, et on avait dit à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu as guéri le jour du Shabbat ce paralytique qui était à Bethesda? Donc on sent que l'interrogatoire ici va chercher à prendre Jésus en défaut. Surtout après les chapitres 7 et 8, on sent bien qu'il y a vraiment y a un lourd contentieux entre Jésus et les autorités juives. Et donc les pharisiens ici qui demandent des comptes. Alors il raconte de nouveau la chose. Il m'a appliqué de la boue, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient, cet individu n'observe pas le Shabbat, ils n'ont pas de Dieu. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes? Et c'était la division entre eux. Et on retrouve ce motif qu'on avait très fort au chapitre 8 et 7 déjà, c'est que le judaïsme est perturbé par Jésus. Il produit une scission, il produit un schisme. On ne sait plus trop comment le prendre en fait. Jésus en fait fait éclater le judaïsme de l'intérieur, ce qui fait qu'il y a des gens qui sentent bien que finalement ce que Dieu leur demande c'est justement de franchir cette étape nouvelle, et puis d'autres qui restent attachés à comme c'était avant. C'est pas très loin au fond de l'attitude spirituelle qu'avait Nicodème en Jean 3, quand Nicodème va voir Jésus, il lui dit mais t'es un maître en Israël, vu les signes que tu fais, vous voyez. Bon, et puis en même temps, Nicodème, il avait encore du mal à franchir l'étape. Alors là, ce que Nicodème vivait, les pharisiens le vivent. Donc, de nouveau, une division sur l'identité de cet homme. Et au fond, ce qui est impossible, c'est la neutralité. Ou bien, on dit, mais c'est le plus grand des pécheurs, parce qu'il prend un malin plaisir à guérir le Shabbat, peut-être en mobilisant des forces hostiles à Dieu type démoniaque, ou bien au contraire, c'est l'envoyé de Dieu, et il a toute autorité de Dieu, y compris sur le Shabbat. Mais on ne peut pas dire simplement, on est neutre en fait, hein, vous voyez. On est forcé de prendre position face à Jésus. On ne peut pas rester dans la neutralité. Et en particulier pas quand on est juif. Alors du coup, il pose la question à l'aveugle, et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? C'est la première fois, là, l'aveugle qui jusqu'à présent, très factuel, bon, il peut plus rester dans cette objectivité, on le force à prendre position. Est-ce qu'il va être comme, ça va être un trouillard ou un rapporte-paquet comme le paralytique? Ou est-ce qu'il va entrer dans une autre dynamique qui est celle du témoignage dans un contexte hostile? C'est ça. Lui, il va plutôt prendre cette voie-là. C'est un prophète. C'est bien. C'est pas top, top, top. Hein, parce que, rappelons-nous qu'en Jean 8, Jésus disait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc là, on est plus sur du prophète. Là. On est sur le Dieu d'Israël. Mais c'est mieux que de dire c'est juste un homme, c'est juste un bon médecin, c'est juste un thaumaturge, et c'est quand même infiniment mieux que de dire c'est un démoniaque ou c'est un homme, un pécheur. Donc en fait, dans la division qui s'est produite, certains qui disent il n'est pas de Dieu, d'autres qui disent mais comment un pécheur, lui il prend position clairement dans un camp qui est dire mais non, cet homme vient de Dieu. Alors, est-ce qu'on va écouter son témoignage? Non, en fait. Hein. On va essayer, l'enquête va se poursuivre. Et on va convoquer ses parents parce que les Juifs refusent de croire à la réalité du miracle. Bizarrement, on a l'impression que le courant, il y avait une scission dans le groupe, il y en avait qui disaient « mais non, il ne vient pas de Dieu », d'autres qui étaient prêts à croire qu'il venait de Dieu, et on a l'impression que le témoignage de l'aveugle-né, enfin de l'ancien aveugle, a fait que maintenant, ils sont de nouveau réunifiés, mais contre Jésus. Toujours effet de transparence, après l'expulsion des judéo-chrétiens de la synagogue, dans un contexte d'hostilité très fort entre le judaïsme et le christianisme, ça veut dire aussi qu'on doit comprendre que si, évidemment, comme baptisé, on est appelé à témoigner de Jésus, il ne faut pas croire que notre témoignage ça va être efficace au sens où ça va convertir les gens devant nous. Vous voyez, là, il y a quand même Jésus nous appelle à témoigner, mais il nous a jamais dit votre témoignage, vous verrez, C'est incroyable l'effet que ça aura sur les gens. Et s'ils étaient hostiles au début, ils vont se retrouver de votre côté à la fin. C'est presque le contraire, en fait, qui nous est montré dans ce récit. Bizarrement, le témoignage a plutôt tendance à concentrer l'opposition contre le témoin du Christ. Alors bon, les parents, eux, ils bottent en touche. Ils disent, c'est bien notre fils, il est bien né aveugle, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils n'entrent pas, en fait, dans la grâce qui a été faite à leur fils. Alors, Saint Jean, d'ailleurs, enfin, oui, l'évangéliste nous dit, ils font ça parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, il est assez grand, interrogez-le. Donc, en gros, ils disent, nous, vous ne demandez pas, c'est notre fils, il était aveugle. Donc, c'est pas mal quand même, parce que dans l'évangéliste, en nous rapportant ça, normalement, nous-mêmes, on doit être convaincus que c'était pas le gars faisait pas semblant d'être aveugle pour gagner plus d'argent dans sa mendicité. Donc les parents viennent authentifier le miracle, mais ils les présentent quand même dans une certaine lâcheté, enfin en tout cas, ils ne sont pas témoins comme leur fils. Ben, ils n'ont pas été baptisés, enfin, ils n'ont pas eu le miracle significatif du baptême. Ça veut dire aussi que, justement, le baptême, c'est quelque chose qui nous saisit certainement dans notre histoire, et notre histoire, elle est façonnée par notre famille, par toutes sortes de gens, mais ça nous prend quand même dans une certaine individualité qui fait que ben, ça devient une aventure très personnelle. Chose qui n'est pas tellement présente dans le monde juif. Dans le monde juif, encore aujourd'hui, hein, on va dire que si on est juif, c'est pas d'abord par des convictions personnelles, c'est qu'on est juif parce qu'on a une mère juive. Vous voyez, c'est quelque chose qui est d'abord culturel et ethnique en même temps. Il n'y a pas cette dimension très personnelle de l'acte de foi. Alors là aussi, dans ce récit de miracle, Saint Jean nous le fait comprendre. Bon, là, c'est que l'ancien aveugle qui entre dans le courage de la foi, parce qu'il n'y a que lui qui a été symboliquement baptisé. D'une manière différente, ça peut faire penser à ce que une phrase de Jésus dans les synoptiques, quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Désormais, il y aura le père se divisera, contre les familles seront divisées, le père contre le fils, la fille contre la mère. Il vient apporter la division en fait. Hein. Donc Jésus n'est pas là. C'est pas. On voit bien que là, le christianisme a une très forte conscience qui remonte à Jésus lui-même, évidemment, du fait que c'est un autre modèle de tout ce qui existe dans les religions de l'Antiquité. Parce que toutes les religions de l'Antiquité, absolument sans exception, à l'époque de Jésus, elles sont liées à quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais qu'on a hérité culturellement. On a la religion romaine parce qu'on est né romain, on a la religion grecque parce qu'on est né grec. Chez les philosophes, c'est un petit peu différent. Dans le monde philosophique, il y a un peu l'idée que on peut aussi avoir une démarche très personnelle, très singulière. Mais dans les religions de l'Antiquité, et en fait toutes les religions sauf le christianisme, au fond, ça n'est jamais normalement quelque chose qui dépend d'un acte de liberté de l'individu. Le christianisme aussi, d'ailleurs, le gars, il aurait pu ne pas aller. Jésus lui a mis de la boue sur les yeux, ben, il lui dit va te baigner à la piscine de Siloé. Il aurait pu dire c'est quoi, qu'est-ce qui me fait ce gars-là? Bon, il est fou, je ne vais pas y aller. Oui, donc sa liberté a été quand même convoquée. Hein, Alors, du coup, comme ce n'est pas concluant, les pharisiens vont rappeler, comme les parents de l'homme lui ont dit, et ils lui disent « Rends gloire à Dieu ». Alors là, c'est une expression qu'on trouve, par exemple, dans le livre de Josué. « Rends gloire à Dieu », en fait, c'est une manière de dire ne nous cache rien, parce qu'on te met en demeure de dire la vérité, sinon tu porteras le poids d'une faute religieuse. Donc, c'est pas « Rends gloire à Dieu », c'est pas du tout positif, comme on dit rendons gloire à Dieu, ou enfin, ce qu'on appelle une doxologie dans la liturgie, ou rendons grâce à Dieu, c'est pas du tout ça. Hein. Rends gloire à Dieu, c'est plutôt une mise en demeure, c'est l'équivalent d'un serment qu'on impose à l'autre, en fait. On lui dit, si tu ne nous dis pas la vérité, ça sera désormais, tu seras comptable de ce que tu nous dis devant Dieu. C'est vraiment la logique du serment, mais imposée à l'autre. opposé, oui, imposé à l'autre. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Alors, dans ce nous, on retrouve l'unité du judaïsme, et cette fois, contre le Christ. Alors, comment va réagir l'ancien aveugle? Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il le répondit, je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples vous aussi? Alors là, vous voyez, il y a une forme vraiment d'impertinence et d'ironie impertinente de la part de l'aveugle. Il voit très bien, en fait, que c'est pas du tout, ils sont pas en quête de vérité. Parce qu'il l'a déjà dit, il n'a rien d'autre à dire. Je vous ai dit ce qui s'est passé. Et donc, finalement, c'est une manière ironique de dévoiler. Le problème, c'est que il y a un blocage spirituel chez les pharisiens. Par principe, ils ne veulent pas reconnaître le miracle. Alors évidemment, les pharisiens le prennent très mal. Ils se mirent à l'injurier et lui dirent « C'est toi qui es son disciple, nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Deux idées dans cette phrase. D'abord, ça veut dire que, enfin dans ces deux versets, qu'est-ce que c'est qu'être disciple de Moïse finalement? Ou plutôt, une fois que Jésus est là, est-ce qu'on peut être disciple de Moïse sans être disciple du Christ? Quand on, si on retourne au chapitre 5, Jésus disait, donc c'est le contexte de la guérison du paralytique, Jésus dit, ne pensez pas, donc à ceux qui lui reprochent d'avoir guéri le jour du Shabbat, ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père, votre accusateur c'est Moïse. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Donc en fait, là, on sait, nous, que Moïse est du côté de Jésus. Ce qui veut dire que pour un juif, une fois que Jésus est là, c'est très bien de vouloir être disciple de Moïse. Mais la seule manière d'être disciple de Moïse, c'est de prolonger ce que Moïse a fait. Et Moïse, il a parlé de Jésus, c'est ce que Jésus disait au chapitre 5. En revanche, vouloir être disciple de Moïse sans être disciple de Jésus, ben c'est plus être disciple de Moïse. Et donc, les pharisiens qui disent « nous, on est disciples de Moïse », d'une certaine manière, ils se leurrent eux-mêmes. Ils veulent opposer Moïse à Jésus, choisir Moïse contre Jésus, et en fait, quand on fait ça, on perd tout. On perd Jésus, bon, ça, ils ne veulent pas voir Jésus, donc ils ont ce qu'ils voulaient, mais on perd aussi Moïse. Alors là, l'homme leur répondit, l'ancien aveugle, c'est bien là, en effet, l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Ah oui, j'avais une deuxième chose, pardon, une ironie qu'on avait déjà vue au chapitre 8, quand ils disent « nous ne savons pas d'où il est », ça peut être dans leur bouche. C'est très péjoratif, c'est de dire, mais ce gars-là, on sait pas, il n'est pas passé par nos écoles, c'est pas un gars, on ne lui a pas donné, il n'est pas estampillé disciple des pharisiens, c'est pas quelqu'un, il vient de nulle part en fait. Donc c'est très péjoratif dans leur bouche. Peut-être même, vu qu'il y avait des légendes qui traînaient sur le fait que Jésus était un fils illégitime, il peut y avoir un peu de malveillance. Sous-entendu dans ces versets, il est d'une naissance très suspecte, vous voyez. Mais ironiquement, nous ne savons pas d'où il est, on avait déjà vu ça au chapitre 8, c'est le fait que Jésus vient de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, c'est vraiment du Père qui vient, et donc dire nous ne savons pas d'où il est, c'est qu'en fait les pharisiens confessent eux-mêmes qu'ils sont incapables, eux-mêmes sont coupés de Dieu. En disant nous ne savons pas d'où il est, c'est une manière de dire, ben nous ne sommes pas avec Dieu finalement. Ils ne sont pas avec Moïse, mais ils sont encore pire, ils ne sont pas avec Dieu. Alors comment l'homme répond? C'est bien là l'étonnant, vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Et il va leur donner une petite leçon de théologie. Ces gens qui sont censés être les guides et les pharisiens ont vraiment la prétention, qui va être reconnue d'ailleurs dans le judaïsme rabbinique après, d'être ceux qui connaissent la loi, et qui sont, c'est eux qui ont la lumière de la Torah pour éclairer Israël. En gros, c'est des professionnels de la chose, c'est à eux que l'ancien aveugle va faire la leçon. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ah pardon, j'ai sauté un verset. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Et puis jamais on a entendu. Donc, il dit, mais au fond, la question, quand vous me disiez, mais cet homme est un pécheur, vous êtes en train de contredire ce que, ce qu'on sait par notre héritage scripturaire, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et cet homme a fait un miracle dont on n'a aucun équivalent, ni Élie, ni Élisée, enfin personne de ceux qui faisaient des miracles dans l'Ancien Testament, jamais personne n'a guéri un aveugle-né. Et donc, c'est certainement pas un pécheur, selon les principes même de l'Ancien Testament. Donc, il les met face à leurs contradictions, et vous voyez qu'il est de plus en plus insolent, ou on pourrait dire de plus en plus sûr de lui-même. Cet homme qui commençait par vraiment quelque chose de minimaliste, qui n'était même pas une confession de foi, confronté à l'exigence du témoignage, va prendre de plus en plus d'assurance et finalement se poser, ben, lui tout seul, contre tout Israël. Alors évidemment, là, le ton monte, hein, on comprend bien, on sent bien cette montée dans les tours, hein, et donc évidemment les pharisiens ne sont pas du tout contents, ils ripostèrent, tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon, ils le jetèrent dehors. C'est-à-dire que finalement, ils se retrouvent, eux, à prendre position vis-à-vis de la question des disciples, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents, en disant, mais c'est lui qui est le pécheur. Il est jeté dehors, donc là, on retrouve finalement, cet homme va vivre exactement, c'est pas simplement qu'il le jette hors de la pièce où il est, mais on comprend qu'il est mis en dehors du judaïsme. Donc il vit précisément ce que ses parents craignaient, c'est-à-dire d'être chassé de la synagogue, au nom du Christ. C'est pas formidable, hein, en fait, hein, comme c'est pas formidable comme destin. Enfin, ça va être compliqué pour lui. Comparativement au paralytique que Jésus avait retrouvé au temple, parce qu'il sautait sur l'occasion, les aveugles et les boiteux accédaient plus au temple. Il dit bon ben voilà, maintenant la malédiction de David est levée, donc je vais au temple. C'est-à-dire symboliquement, je me remets dans le judaïsme. Le paralytique, l'aveugle-né, en fait, on ne nous dit pas qu'il est au temple, et vu qu'il est chassé de la synagogue, il n'y mettra plus jamais, encore plus du temple. Donc vous voyez les destins croisés, en fait. Jésus est venu apporter quelque chose à Israël. Il y en a qui en profitent, mais qui s'inscrivent encore plus profondément dans un Israël qui devient infidèle à Moïse, et puis il y en a ben, qui finalement choisissent la fidélité à Moïse, mais qui du coup sont chassés du judaïsme. Évidemment, là, on a à plein ce fameux phénomène de transparence. Hein. À l'époque de Jésus, sans doute que simplement il a été jeté dehors, jeté de la pièce, mais les pharisiens n'avaient pas forcément l'autorité, n'avaient certainement pas l'autorité sur la synagogue. Mais à la fin du premier siècle, ils commencent à l'avoir. C'est là que nous, on peut comprendre que derrière cette expulsion, bon, qui ne fait pas plaisir, mais enfin voilà, il est chassé, puis après il reprend sa vie comme avant. Non, à l'époque de l'évangéliste, c'est plus possible, il ne reprend pas sa vie comme avant, il n'est plus juif. En fait, il n'est plus considéré comme juif par les autorités juives, ce qui peut énormément compliquer sa vie, puisque, je crois que je vous l'avais dit, surtout en Asie mineure, si c'est la communauté johannique et autour d'Éphèse, on n'a plus la protection juridique qui permet aux juifs de ne pas participer au culte impérial. Et ça veut dire que ben, on peut être mis en demeure d'offrir une offrande à l'empereur, d'offrir un sacrifice à l'empereur, et si on refuse, ça peut très mal se terminer. On ne peut pas dire ben non, mais je suis juif, mais si on va demander, ben, on va vérifier auprès du rabbin, est-ce que ce gars-là, il est juif? Il dit non, non, il n'est pas juif. Et ben, donc le gars, on dit, ben, dans ce cas-là, tu es coupable du crime d'athéisme, c'est-à-dire en fait c'est l'équivalent d'une révolte contre l'ordre romain. Donc c'est quand même assez grave. Donc vous voyez que cet homme, il est au fur et à mesure qu'il prend de l'assurance et qu'il vient, il grandit dans la foi, il grandit dans la confession de foi, c'est un peu la trajectoire modèle d'un baptisé, mais il se retrouve dans une situation périlleuse. Et c'est juste à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver. C'est vrai, on pourrait dire, après tout, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas pris sa défense plus tôt? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas allé voir les pharisiens en disant « Mais foutez-lui la paix, c'est à moi que vous en voulez. Pourquoi vous ne venez pas me chercher ?» On a l'impression que Jésus, en fait, voulait le laisser se dépatouiller tout seul avec les autorités, un peu pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et seulement quand il est allé au bout de la confession de foi, il y a la rencontre. Alors là encore, premier niveau, ben ça s'est passé comme ça. Lecture par transparence, elle peut être double. Ça peut être que ben, quand on va au bout du témoignage, on est sûr de rencontrer Jésus après la mort, mais on peut dire aussi, même globalement, cet homme, il est presque symbolique aussi de l'Église qui vient confesser comme Église, malgré les oppositions qu'elle va rencontrer, et notamment les oppositions politiques, l'œuvre du salut du Christ, l'Église va être rejetée par les sociétés humaines, mais il y aura la rencontre qui, cette fois, est la parousie. Vous voyez, donc ça peut se lire à trois niveaux, hein, simplement, ben, au niveau, en, je ne sais pas, 30 après Jésus-Christ, Jésus peut-être voulait voir, peut-être comparer après le paralytique qui lui a tout faux en fait en réalité. Hein. Et Jésus a eu beau voir le mettre en garde, il dit fais gaffe, autant ne pêche plus ou il va t'arriver pire encore. Bon, il a tout faux le paralytique. L'aveugle-né, lui, il a tout bon. Mais c'est aussi parce que Jésus, là, si Jésus avait pris tout de suite sa défense, on ne saurait jamais en fait. Il serait resté à un stade infantile de la foi. Et donc c'est aussi... Donc, bon, ça peut être vrai au niveau de l'histoire. Au niveau individuel, c'est peut-être déjà en filigrane, même si ça reste très ténu, mais une invitation au martyr sanglant. Alors ça, on retrouvera ce thème beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'Apocalypse de Saint Jean, ou même au niveau très global de l'histoire des hommes, la rencontre avec Jésus, on marche dans l'obscurité de la foi, même si Jésus nous a guéris, mais on ne rencontre pas Jésus. On a un témoignage à porter, mais on n'a pas la consolation de pouvoir discuter avec Jésus le soir, quand on rentre à la maison. Mais par contre, on le rencontrera à la fin. Alors, il vient le trouver, lui dit « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ?» Et lui de répondre « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette question ? Ben, en fait, il y a une forme de réserve, je trouve presque de pudeur. D'un côté, il l'appelle Seigneur. Alors, ça pourrait être un titre de politesse, mais... J'ai quand même le sentiment, crois-tu au Fils de l'homme ? Alors c'est cette figure qu'on a dans le livre de Daniel qui est la figure du jugement. Hein, surtout dans l'Apocalyptique, après, le Fils de l'homme, c'est celui qui vient exercer le jugement contre ceux qui persécutent Israël. Donc là, il y a un petit peu un schéma de transposition, une transposition, un schéma de substitution. De même que le Fils de l'homme vient rendre justice aux Israélites fidèles et persécutés par Antiochus Épiphane, renversement, le Fils de l'homme qui est le Christ viendra rendre justice à l'Église persécutée ou en tout cas brimée par le judaïsme de l'époque et aussi par les Romains, encore plus, hein. Encore plus que le judaïsme. Donc ça c'est le Fils de l'homme. Donc qui est-il Seigneur ? Ici c'est sans doute plus qu'un simple titre de politesse. Et Jésus lui dit, eh bien tu l'as vu, c'est celui qui te parle. De fait c'est la première fois que l'aveugle-né voit physiquement Jésus, puisque quand il lui avait mis de la boue, il était encore aveugle. Donc là, on se dit, cette vision, c'est à la fois encore double niveau, ou triple, c'est une vision, physique, mais c'est aussi une vision, comment dire, c'est vraiment la vision qui correspond à l'obscurité de la foi. Quand on a quitté l'obscurité de la foi, ben on voit Jésus. Alors, d'où cette réserve, qui est-il Seigneur pour que je croie en lui? En fait, moi, ça me fait presque penser à cette réserve, ou cette difficulté, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire, mais dans les apparitions du ressuscité, assez souvent, pas tout le temps, mais il y a un problème de reconnaissance, on ne le reconnaît pas, ou dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. On a ça chez Saint-Luc, on a l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. En fait, il sait que c'est lui, on a l'impression qu'on pressent qu'il sait que c'est Jésus, mais il n'ose pas, ou il ne sait pas, ou il... enfin voilà. Parce que y a quelque chose d'un Jésus qui est, il y a quelque chose il y a quelque chose un peu d'un Jésus ressuscité en fait ici. Alors l'homme dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alors là pour le coup, faut pas rater. Là ce Seigneur, le premier Seigneur, on pouvait hésiter, simple titre de politesse ou pas. Moi je pense qu'il y avait déjà quelque chose, mais là La proskunésie, hein, le fait de se prosterner, c'est vraiment un acte d'adoration religieuse qui, normalement, d'ailleurs, dans le judaïsme, est réservé à Dieu. Bon, bah donc là, on sent que cet homme, il est allé au bout de la confession de foi, il a bien dépassé l'idée que c'était un prophète, mais il est déjà à niveau avec la christologie haute de l'évangile. Il reconnaît que ben, Jésus, il est vraiment, il appartient au monde divin, quoi. C'est le Fils de Dieu, c'est pas le titre qu'il emploie. Alors Jésus dit alors, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Ici, on a une prise, à mon avis, une prise de position sur une question qui taraudait l'Église primitive, qui était justement pourquoi est-ce que la parousie n'a pas lieu tout de suite après la résurrection? Pourquoi est-ce que le Christ nous laisse nous dépatouiller dans l'obscurité de la foi, alors qu'on connaît bien des épreuves, bien des tribulations, parfois même des persécutions? Pourquoi il n'agit pas? Ben, en fait, c'est que Jésus dit, mais il faut qu'un jugement opère. Et ce jugement, ça suppose, vous voyez, c'est, comment dire, si Jésus venait de manière évidente aux yeux de tout le monde, comme le Fils de Dieu, ben, il n'y aurait pas vraiment de jugement au sens où la liberté des hommes ne pourrait pas se construire pour Dieu ou contre Dieu, enfin pour le Christ ou contre le Christ. Pour que le jugement soit honnête, soit fair-play, on va dire, soit juste, il faut que les hommes aient le temps de se retourner et de prendre position, un peu en se dépatouillant à partir d'eux-mêmes. Cette phrase de Jésus, elle colle très bien avec la figure du Fils de l'homme, puisque je vous ai dit, c'est une figure de jugement. En revanche, elle entre un peu en tension avec ce que Jésus disait au chapitre 5. Vous voyez qu'on revient quand même assez souvent au chapitre 5. Hein. C'est vraiment deux chapitres, encore une fois, qu'il faut lire ensemble. Puisque, alors j'espère que je ne suis pas en train de dire une bêtise. Si ça se trouve, je suis en train de dire une bêtise. C'est pas le chapitre 5, c'est le chapitre 3. Est-ce que je suis en train... C'est peut-être le chapitre 3, attendez. Quand on cherche quelque chose, on ne trouve jamais. Bien, malgré ce que Jésus a dit, qui cherche trouve. Ça marche peut-être dans la vie, mais ça ne marche pas dans la Bible. Oui, c'est le chapitre 3, pardon. Ça entre en tension avec le chapitre 3, pas avec le chapitre 5, autant pour moi, mais avec le chapitre 3. Donc dans le dialogue qui devient un monologue avec Nicodème, au verset 17, Jésus a dit: Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde. Alors, ça entre un peu en tension, mais en fait, en contradiction, si vous voulez, mais c'est une tension, une contradiction plus superficielle que réelle. En fait, ça dépend un peu quel sens on donne au mot jugement. Au chapitre 3, ce qui nous est dit clairement, c'est que Jésus n'est pas là d'abord pour apporter une condamnation, mais pour offrir le salut aux hommes. Mais c'est le but. Jésus vient pas là dans le but de condamner l'homme. Mais au chapitre 3, alors même que Jésus a dit je suis pas là pour je suis pas venu pour juger le monde, il nous dit qui ne croit pas est déjà jugé. Donc en fait, il y a malgré tout un jugement qui se fait. Ça n'est pas la finalité de la venue de Jésus parmi nous. La finalité, c'est pas celle du jugement au sens de condamnation. La finalité, c'est le salut, mais le fait est que si vous refusez le salut, ben, d'une certaine manière, vous êtes quand même jugé, vous avez raté la planche de salut. Et au chapitre 9, c'est pas si loin que ça, puisque à travers cette comparaison, ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles, c'est un peu le même positionnement qu'on avait dans le chapitre 3, c'est-à-dire qu'il y a une concentration autour du Christ du jugement. Maintenant, le jugement, c'est plus simplement est-ce que tu fais les œuvres de la Torah ou pas, ce qu'il y avait dans le judaïsme avant le Christ, est-ce que tu respectes bien la cacheroute, est-ce que tu offres bien des sacrifices et tout ça. Non, le jugement, il va tourner autour de la personne de Jésus, est-ce que tu crois au Christ ou pas. Alors, ceux qui ne voyaient pas voient, ça, on comprend bien, c'est finalement déjà l'idée qu'on avait, oui, au chapitre 3, c'est la planche de salut, c'est que, ben, et l'aveugle-né en est un magnifique exemple. Ceux qui ne voyaient pas au sens spirituel, c'est-à-dire ceux qui étaient loin de Dieu, ceux qui étaient bloqués dans leurs péchés, enfin dans toutes sortes de choses, voient, c'est-à-dire entrent dans la foi, et foi qui débouchera d'ailleurs après sur même carrément la vision du Christ, une vision du Christ ressuscité. C'était un petit peu ça qu'on avait en filigrane. Ce qui est un peu nouveau, c'est ceux qui voyaient deviennent aveugles. Autrement dit, ça c'est un petit peu nouveau, il y a l'idée que il y avait des personnes qui restaient dans une espèce d'indistinction ou de grisaille ou de neutralité, et Jésus est venu ôter cette neutralité. Ça, ce n'est pas une idée qu'on avait dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, c'était plus statique, en gros. Il dit, ben, si vous croyez, vous n'êtes pas jugé, c'est-à-dire en gros, vous êtes sauvé. Si vous ne croyez pas, vous êtes déjà jugé, c'est-à-dire vous êtes condamné. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus, c'est plus dynamique, en fait. C'est Jésus vient pour faire passer de la non-foi à la foi, mais aussi pour que ceux qui voient, alors ici c'est pas au même sens qu'avant, Jésus n'est pas venu simplement faire que ceux qui croyaient ne croient pas, c'est que ceux qui pensaient croire, ceux qui se faisaient des illusions sur la foi, ceux qui se faisaient aussi des illusions sur ce que c'était l'obéissance à Dieu, donc là le contre-modèle, le modèle c'est plutôt les pharisiens, mais c'est un contre-modèle, eh bien, accèdent à une certaine vérité, mais qui de fait est très déplaisante, c'est qu'ils se trompent sur leur compte. Ça rappelle pas mal ce que on a, alors chez saint Marc par exemple, mais aussi, enfin, chez tous les synoptiques on a ça, c'est le rôle des, en tout cas chez Marc et Matthieu, Luc c'est un petit peu différent, mais chez Marc et Matthieu, le pourquoi des paraboles. Au chapitre 4 de saint Marc, les douze demandent à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole? Alors Jésus répond, à vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux qui, du dehors, tout devient énigme. Et il va citer Isaïe 6, pour que tout en regardant, ils ne voient pas, que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. C'est un petit peu paradoxal. Là, on a l'impression que Jésus dit, je suis venu pour que, ben, en voyant, ils voient pas, en entendant, ils ne comprennent pas. Quasiment pour qu'ils ne se convertissent pas, en fait, de peur qu'ils ne se convertissent. Et ça, c'est la parabole qui doit faire cet office. En réalité, c'est vraiment très proche de ce qu'on a en Jean 9 ici, c'est que la parabole, elle a cet office qu'elle vous force à vous déterminer, d'un côté ou de l'autre. Alors, ça, c'est un thème important, hein. Il y a, face au Christ, il n'y a pas trois zones, il n'y a pas les pour, les contre et ceux qui ne savent pas, ou qui restent. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas le choix. Et en fait, dire je me prononce pas, c'est une manière d'être contre. On est pour ou on est contre. Et donc, la venue du Christ, c'est vraiment, voilà, je redis autrement ce qu'il dit, hein, à travers cette thématique de la vision, c'est ceux qui pensaient voir, ben, face au Christ, eux-mêmes ne se rendront pas compte, mais avec le Christ, on peut dire, en fait, ils sont aveugles. Et par contre, ceux qui étaient. Là, ce n'est pas le langage qu'on a dans l'évangile de Saint Jean, mais dans les synoptiques, ceux qui étaient aux marges, les publicains, les prostituées, les pécheurs, eux, ben, ils vont précéder les pharisiens dans le royaume. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Alors les pharisiens entendent ça, et évidemment, ils pigent bien l'allusion. Est-ce que par hasard, nous serions des aveugles, nous aussi? Eux, ils ont bien compris qu'il y avait une critique très forte des pharisiens dans la phrase de Jésus, et Jésus maintient, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Alors, autrement dit, il va reprendre ça, c'est vraiment, c'est très ironique, c'est que serions-nous aveugles, là, dans la bouche des pharisiens, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est aveugle physiquement, c'est est-ce qu'on est aveugle spirituellement. Et là, Jésus leur dit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais là, il va prendre aveugle au sens physique, c'est-à-dire, vous seriez, vous qui accusiez l'aveugle-né d'être un pécheur, en fait, si vous étiez dans sa situation, même quand il était aveugle, pour vous, ça serait une situation bien plus favorable parce que vous seriez sans péché. Puisque c'est exactement ce que Jésus a dit, ni lui ni ses parents n'ont péché. Cet homme que vous avez rejeté en disant mais t'es tout entier plongé dans le péché dès sa naissance, dans sa situation de misère quand il était encore aveugle, corporellement, il était bien mieux que vous. Mais à présent, vous dites nous voyons, c'est-à-dire que vous êtes complètement convaincu de votre innocence et de votre lucidité. Votre péché demeure. Donc la situation semble bloquée spirituellement. pas par défaut de l'offre, hein, c'est pas parce que Jésus n'offre pas la miséricorde, mais c'est vraiment par blocage intérieur des pharisiens. Donc vous voyez là, on arrive à la fin du chapitre 9, c'est quand même très bien composé, et encore une fois, c'est vraiment une très belle catéchèse baptismale, une très belle catéchèse qu'on peut encore reprendre d'ailleurs, hein, si ça, je sais pas si ça vous arrive de, je sais pas, les uns et les autres dans vos engagements à la paroisse, peut-être, je sais pas, d'accompagner des personnes au baptême, je sais pas quoi. Enfin, on peut vraiment partir de ce chapitre pour faire une catéchèse. Ah, un catéchumène. Alors, le chapitre 10, il est dans la continuité narrative du chapitre 9, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas alors Jésus alla en Galilée ou il quitta Jérusalem. Donc, il semble que c'est le même auditoire, mais la thématique va un peu changer. En fait, il y a quand même un rapport, c'est que toute la première partie, ça tourne autour du thème du berger. Or, le berger, évidemment, c'est une métaphore qu'on trouve dans l'Ancien Testament, à la fois pour désigner Dieu, qui est le berger d'Israël, son peuple. On a ça chez Isaïe, chez Jérémie, et notamment chez Ézéchiel. J'y reviendrai parce que c'est là où c'est le plus proche, c'est Ézéchiel. Mais aussi pour les guides humains d'Israël, notamment le roi, mais aussi les prêtres. Là, on va voir que Jésus, enfin, vous l'avez lu, vous savez donc que Jésus se pose comme le bon berger par rapport à des gens qui sont des brigands ou des voleurs. Dans le contexte, évidemment, où on se dit, mais il ne s'agit pas simplement de parler de moutons, il s'agit plutôt de parler d'Israël et de qui conduit Israël, dans l'effet de transparence contemporain de l'Évangile, où c'est les successeurs des pharisiens qui ont pris la conduite du peuple, ben, on voit bien que l'attitude des pharisiens en Jean 9, dont Jésus, d'ailleurs, ça se termine en disant, mais votre péché demeure, se sont disqualifiés pour être les bergers, c'est-à-dire ceux qui vont conduire Israël. Donc, changement thématique, enfin, changement. Oui, changement thématique, c'est un peu. Mais il y a quand même un lien dans la mesure où ça reste quand même. Jésus, il y a d'abord une révélation sur Jésus, mais disons, la polémique avec les pharisiens, et donc surtout le judaïsme proto-rabbinique, celui qui est en train de s'organiser après la destruction du temple, la polémique continue. Donc ça fait quand même un argument de. Il y a quand même un élément de continuité entre le chapitre 9 et le chapitre 10, qui explique que finalement, c'est le même auditoire. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais ce qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, celui qui garde la porte lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix, les brebis lui appartiennent. Il les appelle chacune par son nom, les amène dehors, et puis quand il les a fait sortir, il marche à sa tête, elles lui suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Et puis ça se termine, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Donc première parabole autour du thème du berger. On pourrait dire que la pointe de cette comparaison, de cette parabole, c'est que les brebis, c'est-à-dire d'abord les juifs, mais en fait c'est ceux qui ont cru en Jésus. Ils ont en eux quelque chose qui leur permet de faire le tri entre les guides qu'il faut suivre. Est-ce qu'il faut suivre, surtout quand on est juif, c'est là où la question se pose, mais les successeurs des pharisiens, c'est-à-dire le judaïsme rabbinique, justement ce judaïsme qui a exclu les chrétiens de la synagogue, ou bien faut suivre le Christ, et sur quels critères? En fait, sur quels critères je peux choisir? Et là, Jésus, il nous dit quelque chose d'assez profond. Il nous dit, mais en fait, le chrétien, celui qui croit en moi, il développe avec moi une relation de connaissance mutuelle absolument unique en son genre. Il connaît ma voix. D'un côté, les brebis appartiennent au berger. Il les appelle chacune par son nom, donc il les connaît personnellement. Alors bon, déjà pour les animaux, effectivement, les bergers, les vrais bergers, ils ont une connaissance En fait, chaque animal a un petit peu sa personnalité, donc c'est vrai. Donc là, il se base sur une donnée réelle, hein, de la vie pastorale, mais là, c'est une manière de dire le Christ a une connaissance très personnelle de chacun qui croit en lui. Et inversement, la brebis connaît la voix du berger, donc c'est une connaissance mutuelle. Et là encore, ça s'inscrit merveilleusement dans la grande thématique christologique de l'Évangile, qui est une dynamique de révélation, vous voyez, le thème de la connaissance. Le Christ, en me révélant Dieu, parce qu'en me révélant le Père, il me révèle aussi qui je suis, et donc il fait qu'il y a une relation d'intimité unique en son genre entre moi et le Christ, et face à laquelle ben, tous les autres prétendants sont disqualifiés. Alors, il les emmène dehors. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils le suivent? Elles le suivent, elles l'emmènent dehors. Mais, vous voyez, c'est un peu la symbolique de l'enclos. Que représente l'enclos? Ici, ça pourrait, c'est bien plausiblement l'idée que l'enclos représente Israël dans un premier mode de salut, qui est Israël gardé par la Torah. L'avantage de l'enclos, c'est que on est protégé. L'inconvénient, c'est que ben, on est un petit peu comme une prison, ou en tout cas, on est enfermé, et puis ben, on n'a pas la nourriture, enfin, à un moment donné, on ne peut pas rester éternellement dans un enclos. Donc, ce qui se dégage de cette image, c'est plutôt le fait que Jésus va chercher les brebis, Israël, et il va les amener vers quelque chose qui était promis à Israël, mais que la loi ne pouvait pas assurer. La loi, c'était juste l'enclos. Et maintenant, il va les conduire au pâturage. C'est pas très très loin de quelque chose qu'on a dans l'Épître aux Galates, alors que je vais vous lire. Alors je suis au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Avant la venue de la foi, ici c'est la foi au Christ hein, pour saint Paul, nous étions gardés en captivité sous la loi en vue de la foi qui devait être révélée, donc en vue du Christ. Ainsi donc la loi, c'est la loi de Moïse, a été notre surveillant en attendant le Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Et un petit peu plus loin, Paul nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi. Tu n'es pas esclave, mais tu es héritier. Et puis il va, alors au chapitre 4, là, donc il prend la comparaison des deux alliances. Il dit, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Donc chez saint Paul, il y a l'idée que la loi, certes, elle nous protège, mais elle nous protège en nous gardant un petit peu dans une prison. On perd de la liberté, ça limite le mal, ça limite. Ça tient le péché dans une certaine distance, mais d'un autre bout, ça nous empêche d'être dans la totale liberté que Dieu veut pour ses enfants. Et bien là, symboliquement, à travers l'enclos, c'est un peu ça qui se passe. Jésus vient libérer son troupeau, c'est-à-dire libérer Israël de la loi. Ce qui vient permettre cette lecture, c'est que vous vous souvenez qu'en Jean 9, et j'ai dit on peut prendre Jean 10 dans une certaine continuité de Jean 9, il y avait l'idée, ben vous êtes, nous on est disciples de Moïse. Quand ce qu'ils disaient les pharisiens, c'est comme ça que le judaïsme rabbinique d'ailleurs se comprend, c'est vraiment prolonger la loi de Moïse. Le Talmud, c'est la prolongation de la loi de Moïse. Ben oui, mais en gros, ça veut dire, ça refuse, on préfère rester dans la sécurité de l'enclos, mais du coup, est-ce qu'on a encore à manger, quoi? Est-ce qu'on n'est pas en train de mourir sans en rendre compte? Donc, première parabole. Deuxième parabole, mise ici, parce qu'il y a on reprend la thématique du berger, mais enfin du pâturage, enfin plutôt des brebis, mais en fait on va voir que le sens est un peu différent. Donc je suis au verset 7. Jésus reprit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Voilà, c'est un peu différent, parce que il n'est plus le berger, il est la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Alors ça, c'est par contre, il y avait déjà l'idée qu'ils savent, on connaît la voie. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ici, vous voyez que l'enclos a changé de signification, puisque le mouvement, ce n'est pas simplement sortir de l'enclos, mais c'est entrer et sortir. Alors peut-être bien que c'est aussi une allusion à la vie chrétienne, hein. Il y a un côté, dans la vie chrétienne, il y a un côté ad intra et ad extra, comme on dit en latin, c'est-à-dire tourner vers nous, puis tourner vers les autres. Vers nous, c'est quand on célèbre la messe, enfin, quand on fait des choses entre nous, mais il y a aussi un côté tourné vers les autres, aller vers l'extérieur. Donc ici, ça serait peut-être plutôt cette idée que la porte des brebis, l'enclos signifierait l'église, donc c'est très différent de la première image, hein. L'enclos signifierait l'église, mais de toute manière, qu'on entre ou qu'on sorte, c'est toujours par le Christ. Et la contre-figure, c'est les voleurs et les brigands. Donc les voleurs et les brigands, ça serait ceux, alors dans cette image-là, ça serait peut-être ceux qui, je pousse un peu l'image, hein, mais ça serait ceux qui justement, par comparaison, n'assurent pas l'unité de l'intérieur de l'enclos ou de l'extérieur, c'est-à-dire ou bien vont de manière excessive, enfin bon, les voleurs et les brigands, c'est plutôt ceux qui vont soustraire à l'enclos, donc ça serait quand même ça serait plutôt une perdition dans le monde, mais après tout, ça pourrait aussi faire allusion à une conception presque sectaire du christianisme. Ça serait une autre manière de voir les choses. Donc, on reste dans la thématique des brebis, mais Jésus est la porte. C'est plus le berger, c'est la porte. Donc, deuxième parabole. Puis, troisième parabole, il va revenir à l'identification du berger. Donc, certainement, hein, ces paraboles, il ne les a pas dites au même moment. Hein. Mais le disciple que Jésus aimait, ça l'a marqué, et il a dit, bon, on va les mettre au même endroit à cause de cette unité des brebis, thématique des brebis. Je suis le bon berger. On n'avait pas le bon berger avant, on avait le berger des brebis, puis la porte, puis cette fois le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Encore une idée nouvelle. Vous voyez, la première, c'était plutôt je viens libérer Israël. La deuxième, c'est grâce à moi, vous avez votre juste rapport, enfin vous avez votre être, vous êtes à l'aise dans l'église, dedans et dehors. Là, c'est plutôt l'idée que le berger, c'est un berger pas très peu banal, parce que loin d'utiliser les brebis pour sa vie, enfin, parce qu'il va les vendre, ou peut-être même enfin, il va les tondre, il va les vendre. Enfin, normalement, le berger, c'est son boulot. Il vide ses brebis, en fait. Donc, analogiquement, c'est plutôt les brebis qui donnent leur vie pour enfin, c'est plutôt les brebis qui donnent leur vie pour le berger. Ici, c'est inversé. Le bon berger, il va donner sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup? Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Alors ici, la contre-figure, ce n'est pas tellement le loup, c'est vraiment le mercenaire, c'est-à-dire celui qui justement, en fait, on dirait le mercenaire, c'est juste le berger qui fait son boulot finalement. Mais enfin, il n'a pas cette intimité telle qu'avec ses brebis, qu'il est prêt à mourir pour ses brebis. Donc ça serait un guide religieux, peut-être, qui fait bien son boulot, hein, mais qui n'est pas dans cette dynamique de don total du Christ pour ceux qu'il aime. Alors là, on retrouve l'idée, la comparaison, qui est le mercenaire. Ça pourrait bien être justement de nouveau le judaïsme, les guides, les rabbins, les premiers rabbins, ceux qui organisent le judaïsme rabbinique. Ils apprennent la Torah aux Israélites, mais est-ce qu'ils sont prêts à mourir pour eux? Ben non, c'est Jésus qui est mort sur la croix. En fait, ce ne sont que des mercenaires. Alors, je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. Comme mon père me connaît, que je connais mon père. Là, voilà, brusquement, on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire que cette connaissance mutuelle des brebis et du berger, du Christ et de ses disciples, ça devient quelque chose qui a son fondement ou même sa vérité en Dieu lui-même. Alors, et je me dessaisis de ma vie pour mes brebis, ça veut dire que Jésus nous fait comprendre que finalement, pour lui, c'est la même chose de donner sa vie aux brebis. Il ne le fait pas par... c'est pas un coup de tête, en fait. Hein, c'est pas ou de l'imprudence ou du fanatisme. Mais il y a quelque chose de sa relation avec le Père qui est engagé dans ce geste-là. Son amour pour nous, ça concrétise son amour pour le Père. En fait, en nous donnant sa vie, il aime le Père. Ah oui, là, on passe brusquement à un tout autre. Là, on est niveau 2.0. Hein, oui, c'est les choses du ciel, là, déjà. C'est plus les choses de la terre, c'est les choses du ciel. Et puis, encore une phrase très intéressante. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. À quoi il fait allusion ? Il y a deux manières de comprendre, qui ne sont peut-être pas d'ailleurs exclusives. Très souvent, dans les commentaires, on pense que là, il y aurait une allusion à la mission auprès des païens. Ça voudrait dire que, ici, Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, il s'est intéressé à la Samaritaine, au Samaritain. C'est la frontière du monde juif. Mais là, les païens, il n'y a pas de mission auprès des païens, comme on peut avoir... Par exemple, en Saint-Marc, où il va voir la Syro-Phénicienne, il va dans la Décapole, qui est de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de... La mission des païens est réservée pour plus tard, pour après la résurrection. Et ici, on aurait une annonce de cette mission. Elles ne sont pas de cet enclos. Alors là, on retrouverait l'idée que l'enclos, c'est Israël. Mais elles vont écouter ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire, je vais réunir les Juifs et les païens dans une seule église. C'est très possible, on verra qu'au chapitre 12, là le thème de l'ouverture aux païens apparaît, alors là pour le coup explicitement, peut-être aussi que avant l'ouverture aux païens, il y a un autre enjeu, avant l'unité des juifs et des païens, il y a un peu un autre enjeu, c'est l'unité de l'Église elle-même. Puisque rappelez-vous, le christianisme johannique, il est très original, puisque en tout cas ce n'est pas un christianisme comme les synoptiques qui prend pour figure tutélaire, les douze ou Saint-Pierre. C'est le disciple que Jésus aimait. Avec des difficultés dont le Nouveau Testament témoigne. En fait, il y a quatre variantes de christianisme dans l'Antiquité. Je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais comme la pédagogie, c'est l'art de la répétition, je vous le redis. Il y a le christianisme commandé par les douze, par les apôtres. L'écrit de référence, c'est les évangiles synoptiques. Il y a le christianisme johannique. La figure de référence, c'est le disciple que Jésus aimait. Bon, la figure... Le livre, c'est l'Évangile et les lettres, peut-être l'Apocalypse aussi, même si c'est un petit peu spécial, l'Apocalypse, les lettres de Saint Jean, évidemment. Il y a le christianisme paulinien, c'est encore une autre boutique, ça c'est le corpus paulinien. Et puis il y a le christianisme très judéo-centré, qui est représenté par Jacques, le frère du Seigneur. Il y a un seul écrit qui témoigne de ça, c'est l'Épître de Saint Jacques. Mais si on l'a mise dans le canon, c'est pour dire qu'en fait, on a les premiers chrétiens... ont compris que malgré toutes les différences sociales, culturelles, religieuses, tout ce qu'on veut, qui pouvaient différencier le christianisme johannique du christianisme de Saint Jacques, du christianisme de Saint Paul, ils avaient toutes les raisons de se diviser, mais ils ont une conscience vive que malgré leur expérience différente du Christ, ils doivent être une seule Église. Vous voyez, ici, pour moi, on a le fondement de l'œcuménisme, en fait. Donc c'est un peu différent, ou bien on prend en clé de mission... ou bien on prend en clé d'unité, on va dire, d'écuménisme. Et c'est particulièrement important au sens où, au moment de l'Évangile, les communautés johanniques ne sont pas en très bonne situation, il y a des difficultés à l'extérieur avec des persécutions, il y a aussi, ce qui est encore plus grave, des difficultés à l'intérieur avec ce fameux schisme proto-gnostique dont je vous ai déjà parlé. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à ne pas disparaître? Et en fait, la communauté johannique, c'est ce que le chapitre 21 nous explique, va reconnaître l'autorité de Saint-Pierre, à condition que la grande église représentée par les apôtres reconnaisse la validité du témoignage du disciple, c'est-à-dire mette dans le canon l'évangile de saint Jean. C'est du donnant donnant. Et ça, donc ça colle assez bien ce souci. C'est peut-être aussi une manière de dire, et puis évidemment, en Jean 17, vous rappelez que dans la prière sacerdotale, il y a la prière de Jésus, elle est en grande partie pour l'unité, pour qu'il soit un. Donc les divisions de l'Église à la fin du 1er siècle sont telles que c'est bien possible que le sens premier de cette phrase, ça soit en fait l'unité de l'Église. Bon, je termine. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. En fait, c'est je dépose et je reprends. Il y a deux verbes grecs, titémi et lambano. Ces deux verbes apparaîtront exactement dans cet ordre au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples en Jean 13. Il va déposer son vêtement et puis il va le reprendre. C'est certainement pas un hasard, c'est qu'en fait, dans le lavement des pieds, il y a la passion et la résurrection. En fait, je dépose ma vie et je la reprends, c'est je meurs et je ressuscite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir de nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors ça, c'est une affirmation très, très originale, très forte et typiquement johannique. C'est que le Christ de saint Jean, il est tellement haut qu'en fait, il meurt quand il le décide. On pourrait dire la mort, normalement, c'est le lieu de la dépossession, c'est le lieu de la passion. En fait, chez saint Jean, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de passion. Jésus garde jusqu'au bout pouvoir sur les choses, y compris sur sa mort. On pense qu'on lui enlève la vie, mais en fait, c'est lui qui la donne. Encore une ironie, si vous voulez. Les gens sont persuadés qu'ils le mettent à mort. Ben, la vérité, c'est que Jésus donne sa vie. Ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les autorités juives, mon schéma classique. Beaucoup parmi les gens disaient « il est possédé », ce qu'on retrouve aussi, ce qu'on avait chez les synoptiques, c'est par Belzéboul qu'il expulse les démons. Mais d'autres disaient « ce ne sont pas là à propos de posséder, un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle ?» Donc là, on retrouve quand même cette unité, voilà, l'unité que je vous disais avec le chapitre 9. Même si, sans doute historiquement, l'évangéliste a collé ensemble des choses qui ne sont pas passées au même moment. Probablement qu'il y a eu l'aveugle-né, et puis des paraboles sur le Jésus bon berger à d'autres moments, mais il s'est dit, allez, je vais en faire un truc, ça va bien coller ensemble, et donc il nous le met dans cette unité qui commence en 9.1 et qui termine en 10.21. Alors, je ne vais pas aller au bout du chapitre 10, mais ce n'est pas très grave, on a fait une unité. Pour la prochaine fois, ça serait bien que vous lisiez, vous relisiez, parce que vous connaissez déjà tout ça, mais vous relisiez Jean 11, c'est la résurrection de Lazare, et Jean 12, un chapitre très important, parce qu'il y a une première conclusion de l'évangile, puisque c'est la conclusion du grand livre des signes. Donc à la fin du chapitre 12, il y a beaucoup de trucs très importants.